Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant.
De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, quatre étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses.
La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement.
Anne Kéméré est une voyageuse de l'extrême, célèbre pour ses navigations en solitaire dans des conditions difficiles. Elle a par exemple traversé deux fois l'Atlantique uniquement à la force de ses bras. Lorsqu'elle est à terre, elle écrit des livres et donne des conférences pour éveiller les consciences sur l'impact du réchauffement climatique.
Vous êtes exploratrice, navigatrice, documentariste, autrice, et on vous présente souvent d'abord comme une record woman. Mais vous, comment vous vous présenteriez ?
Je me présenterai pas. J'aime pas les étiquettes. J'aime pas les étiquettes parce que justement elles nous enferment dans quelque chose qui n'est pas complètement nous. Une étiquette va être une facette de ce qu'on est. Oui, je suis navigatrice parce que je navigue, mais pas que. Oui, je suis auteur ou autrice parce que j'écris, mais pas que. Donc ça veut dire qu'il y a tout un éventail de possibilités en nous et en chacun de nous, parce que c'est pas unique à une seule personne. Et du coup, oui, quand on me demande de comment me définir lorsque je dois intervenir par exemple en conférence, les gens aiment bien avoir un titre. Alors oui, très souvent ça va être navigatrice parce que c'est le truc qui va englober le plus peut-être de mes compétences, et encore j'en suis pas sûre. Moi, je me considère comme une voyageuse, tout simplement, parce que c'est vrai que Record Woman, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Un record, d'abord, il est fait pour être battu. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère. Moi, j'ai battu des records, en plus, à l'aviron. L'aviron, c'est, par essence, le plus lent qu'on trouve, peut-être, sur l'eau. Donc, mettre, par exemple, 87 jours à traverser l'Atlantique Nord et on vous dit ensuite que vous êtes la record woman de ce genre de voyage, oui, mais enfin, j'ai quand même mis 87 jours à une époque où on met moins d'une semaine pour traverser l'Atlantique. Donc, ça fait sourire. Je pense que c'est plus... c'est le côté un peu journalistique où on aime bien avoir un pitch, où on aime bien avoir mettre des superlatifs. Moi, très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai retenu dans ce que j'ai fait de mes voyages. Donc oui, c'est un peu de tout ça. Voilà, je suis un peu de tout ça et plus.
On était intéressé par savoir comment ça se prépare techniquement et physiquement. Donc comme vous l'avez dit, le bateau dans le garage, mais du coup, un peu plus globalement, la préparation technique, physique. Comment on se prépare du coup à des aventures comme les traversées des océans et aussi comment on se prépare aux risques qu'on peut rencontrer?
Oui, alors la préparation du bateau est évidemment une grande partie du projet. Soit le bateau existe et il faut le rénover ou il faut l'adapter, soit le bateau n'existe pas, ce qui a été le cas moi à deux reprises. Donc il faut le trouver déjà la personne, l'architecte qui va le construire. On part de rien, c'est pas un bateau de série. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de concertation, il y a beaucoup de confiance qu'il faut aussi avoir les uns envers les autres. Parce que moi, quelque part, je mets ma vie entre les mains de ces gens qui vont construire le bateau. Donc il faut qu'eux assurent cette partie-là, absolument. Et que moi, j'y crois, absolument. Après, j'avais la chance d'avoir quand même un prédécesseur qui était Gérard Daboville, que j'ai rencontré, qui m'a raconté sa traversée. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris aussi que c'était des voyages qui étaient personnels. Donc on peut écouter les conseils avisés des uns et des autres, mais en même temps, on sait très bien que cette traversée-là, il n'y a que nous qui la ferons. C'est un peu comme des parents qui donnent des conseils à leurs enfants pour peut-être des projets à venir ou des projets de vie. Bien sûr qu'on va les écouter, mais en même temps, on se dit « Ouais, mais non, nous, on fera différemment parce qu'on fera mieux. » Et là, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. J'avais les conseils de quelqu'un qui était un peu un ancien, enfin, entre guillemets. Et en même temps, moi, j'étais une femme, donc je me disais que ça allait être certainement différent pour moi. Je partais pas tout à fait sur la même route que lui. Donc, il y avait plein de données qui étaient différentes. Mais il n'empêche que c'était rassurant pour moi aussi de l'écouter et de me dire il en est revenu, a priori il en est bien revenu, donc il n'y a pas de raison que je me plante. Et puis après ça, la préparation, c'est une préparation physique, parce que là l'aviron ça nécessite quand même de travailler son corps dans une salle tous les jours pendant un certain nombre d'heures avec un programme, et pour moi il n'y a rien de pire que d'être entre quatre murs, donc c'est vrai qu'à partir de là le mental s'est mis assez naturellement en place. Après, pour ce qui était de minimiser les risques, bah, on blinde tout, à savoir le bateau déjà. On essaie d'avoir le bateau le plus fiable possible. Et puis, on essaie d'imaginer. Alors, c'est toujours très compliqué parce que on peut imaginer les risques que l'on a sur un voilier, par exemple, parce que c'est connu aujourd'hui. Mais les risques sur un rameur d'océan, en deux, moi, sur ma première traversée, par exemple, où là, j'avais aucune expérience, il n'y avait quand même pas tant de monde que ça qui avait traversé les océans à la rame. Et donc, c'était compliqué quand même d'avoir un retour. Donc, c'est apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos faiblesses, en faire des forces éventuellement, ou en tout cas travailler pour qu'elles ne nous handicapent pas au moment venu. C'est renforcer ce qui fait déjà nos qualités, parce qu'on en a tous. Donc c'est aussi apprendre à s'évaluer justement. Et je crois que c'est ça le travail le plus dur. Et peut-être moi, mon passage aux États-Unis m'a permis cette évaluation juste. En France, on a toujours tendance à se mésestimer, sous-estimer, parce qu'on est dans cette éducation où, dès qu'on se met en avant, on est jugé comme prétentieux. Comme... L'Américain n'est pas du tout comme ça. Et moi, du coup, j'ai appris vraiment à m'évaluer sans se cacher, sans avoir honte de nos forces. Et ça m'a permis, en tout cas, de me préparer pour mes traversées. Ouais. Il n'y a aucun endroit où, aujourd'hui, on est réellement seul. Et du coup, moi, cette extrême solitude, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Parce que la première fois, j'ai trouvé qu'elle était indigeste et très compliquée à gérer. Et puis, lorsque je suis arrivée, après ma première traversée, j'ai réalisé qu'elle n'avait duré qu'un temps. Que ce qui m'avait semblé être l'éternité en mer, finalement, n'était pas cette éternité. Dès qu'on rentrait à terre, tout se passait très très vite et le temps était élastique. Et puis par la suite, la solitude est devenue vraiment une amie que je recherchais parce que je savais à quel point j'étais privilégiée. Et je le sais aujourd'hui. Donc lorsque je pars, il y a aussi cette quête et cette volonté de retrouver cette solitude.
C'est ça, parce que du coup, j'ai lu vos livres et vous parlez de à la fois la nostalgie, le soulagement de la solitude, à la fois quand vous partez et quand vous arrivez. Et c'est vrai que vous avez un peu l'impression de fuir un monde dans lequel, des fois, vous n'adhérez pas à tout, la vitesse, etc.
Je ne vais pas dire que je fuis le monde, mais c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne du monde, on le prend avec distance. Et je pense que ces voyages ont vraiment cette qualité de nous permettre le recul. Le recul qui est nécessaire, qu'on n'a plus. Je le vois, je vis quand même beaucoup à terre. C'est vrai que j'ai choisi aussi de vivre au bout du monde dans le Cap Sizun parce que j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Et moi, c'est un moment où je peux me concentrer. Je ne perds pas pied avec ce qui se passe. Mais en même temps, qu'est-ce que ça nous apporte parfois ? Toutes ces informations qu'on nous balance, qui sont toutes différentes les unes des autres, mais qui sont extrêmement anxiogènes. Alors oui, on va être bien stressé, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer ce qui se passe ? Non. Donc on est les pieds et poings liés dans une situation qui est extrêmement stressante et à laquelle on ne peut rien apporter. Moi, je préfère justement le recul parfois, analyser à froid, ne pas se laisser envahir par les émotions, parce que c'est ça aussi le but aujourd'hui de l'information, c'est qu'on essaye de nous... Il y a une emprise sur nos émotions, et on se rend compte qu'on n'est même plus capable de réfléchir sereinement. On perd notre bon sens la plupart du temps. La solitude autorise ce recul, et peut-être ce retour au bon sens qui est, à mon avis, indispensable.
Et du coup, comment ça se passe la vie à bord ? Donc vous avez dit qu'il y a pas de bateau pour vous ravitailler. Donc comment ça se passe pour se nourrir, dormir ? C'est quoi en fait une journée type, une journée quotidienne quand vous êtes sur votre bateau toute seule ?
Alors déjà, en mer, il n'y a pas de journée type. Ça n'existe pas. C'est ça le plus déstabilisant peut-être par rapport à la vie qu'on mène à terre. La journée, elle se cale par rapport à la météo. Et la météo de la veille n'est jamais celle d'aujourd'hui qui ne sera jamais celle de demain. Et en fonction de cette météo, toute notre vie va en découler. À savoir que si on se retrouve avec des vents de 40 à 50 nœuds et des creux de 6 à 8 mètres, il est évident qu'on ne peut pas ramer, qu'on est enfermé dans le bateau, et que là, la seule chose à laquelle on pense, c'est d'abord quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on sait que ça s'arrêtera, la dépression elle passera, on sait qu'on ne peut pas s'alimenter, parce que le bateau menace de chavirer à tout instant, donc c'est très compliqué de s'alimenter, c'est très compliqué de boire, on ne peut pas faire d'eau, donc il faut avoir prévu d'en faire avant, parce que l'eau, quand je dis faire de l'eau, c'est un appareil qui s'appelle un désalinisateur dont est équipé le bateau, qui pompe de l'eau de mer. Et pour environ 60 litres d'eau de mer, moi j'avais 4 litres, un peu plus de 4 litres d'eau potable. Donc on a de l'eau en permanence, sauf qu'il faut prévoir son coût pour amorcer la pompe et le faire dans des conditions météo favorables, parce que le dessal est alimenté par des batteries qui elles-mêmes sont nourries par des panneaux solaires. Donc pas de soleil, les batteries ne se rechargent pas. Tout doit être vraiment calculé, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on profite de chaque instant. On sait par exemple que l'énergie à terre, elle est moindre, qu'elle est compliquée à gérer, et qu'elle est essentielle au dessal, l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Donc la priorité, elle va aller d'abord à faire de l'eau. Pas à écouter de la musique ou pas allumer tout son électronique à bord, parce que ça n'est pas prioritaire. Et je trouve assez intéressant de commencer à réfléchir aussi, parce que c'est un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui, faites attention, mais nous en bateau on l'a toujours fait attention, parce que dès qu'on se retrouve en mer, en pleine mer, et qu'on sait qu'on ne touchera pas la côte tout de suite, tout est précieux. Le sommeil devient précieux, la nourriture devient précieuse. La vie à bord va être calée vraiment sur doser chaque chose, économiser ce temps dont on n'a pas besoin, ne pas laisser des appareils par exemple en veille, quand on sait que même pour le peu que ça va consommer, ça va quand même déjà consommer trop. C'est toujours ça qu'on aura en moins, peut-être pour le dessal qui lui sera précieux le jour où on n'aura plus d'eau. Donc c'est vrai que y a une rigueur à bord qui est très importante. Moi j'adore le chocolat par exemple, je pars toujours avec 5-6 kilos, je sais que si je mange 6 kilos dans la première semaine, j'aurai plus rien pour les suivantes. Donc c'est aussi apprendre à trouver un équilibre pour que ça n'entame pas non plus trop le moral, parce que le moral c'est le moteur. Donc c'est de trouver en permanence un équilibre à bord, et je crois que moi c'est ça qui me fascine, de voir à quel point l'humain est adaptable à beaucoup de situations qui nous paraissent complètement folles quand on est à terre, parce que combien de gens me disent mais ce que vous faites je pourrais jamais le faire. Moi, je leur dis ça, on ne peut pas entendre ça. Que vous ne vouliez pas le faire, je peux l'entendre. Parce que chacun a des désirs différents. Mais de dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on met sa capacité en doute, alors que lorsqu'on se lance dans des projets quels qu'ils soient, on se rend compte que c'est parfois juste la motivation qui fait qu'on y arrivera. Et on n'a pas besoin d'être plus doué. Très honnêtement, pour traverser un océan à la rame, il ne faut pas être plus doué que le commun des mortels. C'est tout sauf des galères. On n'est pas en train de ramer comme des malades toute la journée. On trouve chacun, on trouve nos rythmes, on se cale dans ce qui nous correspond le mieux. Après, c'est une course d'endurance. Et c'est là où il faut être fort mentalement. Mais c'est pas aussi compliqué que l'image peut-être que ça en a. Après, oui, il faut pas non plus avoir le mal de mer, il faut pas avoir peur de la mer. Mais comme je vous disais, moi, c'est un terrain de jeu qui m'est assez familier. Donc tout ça ne rentrait pas en compte. Et ça rendait la chose plus facile, entre guillemets.
Et est-ce que vous avez vu, du coup, cette adaptation à cette vie sur le bateau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remis en pratique après sur la terre? Vous avez vu que vous avez changé de manière de fonctionner dans votre vie ou pas?
Oui, quand même. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même se re-sociabiliser. Quand on arrive, il y a une petite réadaptation. D'abord, on trouve que le monde va beaucoup trop vite. Moi, mon bateau, il avance à 5 km/h à peu près. Donc même monter dans une voiture qui va rouler à 50 km/h, les premiers temps, c'est affolant. On se dit, mais on va se tuer. Enfin, comment on a pu conduire des voitures avant de partir? Et puis, petit à petit, on se réadapte. Même marcher est compliqué. On a été assis pendant 90 jours. Donc marcher, c'est très compliqué. Écouter les gens parler, voir de quoi ils parlent. On pense qu'ils s'en sont encore à parler du même sujet. Eh ben non, ils sont passés à complètement autre chose. On se dit, mais ça a été vite, 3 mois finalement, c'est fou. Moi, pour moi, aujourd'hui, rien que d'aller à Paris, par exemple, c'est vraiment un calvaire. Parce que je sais que le soir, quand je vais lever la tête pour regarder les étoiles, je ne les verrai pas. Parce qu'il y a une pollution lumineuse qui est épouvantable, parce que les gens ne se parlent pas, parce que je me sens agressée en permanence, parce que justement, tout ce qui est fait moi aujourd'hui n'existe pas là-bas. Cette réadaptation, elle est un peu compliquée. jusqu'au moment où voilà, on reprend aussi ce rythme, avec quand même, je pense, un retour qui n'est jamais à 100% celui qui ne nous redonne jamais la personne qu'on était, heureusement d'ailleurs. On apprend à regarder le ciel, on voit une dépression lorsqu'elle se forme, on comprend plein de choses. On regarde, moi, je passais mes nuits, lorsque le ciel était découvert, à regarder les constellations. On réapprend le ciel, ou on l'apprend quand on ne l'avait pas appris avant. C'est passionnant, et ça ouvre des portes qu'on n'imaginait même pas. Donc oui, il y a une connexion réelle, et celle-là, elle ne nous quitte plus lorsqu'on rentre à terre. Je pense que la mer nous apprend à relativiser énormément, justement... dans ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on est en mer et qu'on imagine la Terre, on voit des gens qui, une espèce de fourmilière qui est continuellement à se taper dessus, mais pour des choses qui sont bien souvent dérisoires. Et donc ça nous permet, oui, de relativiser énormément, parce qu'en mer, tout peut arriver, à tout instant. Alors à terre aussi, hein, on peut se faire renverser par une voiture, on peut... mais en mer, c'est beaucoup plus prégnant et présent, puisque on vit dans cet élément liquide, on y est seul, et la moindre vague qui retourne le bateau, si on n'y a pas prêté attention, c'est fini, c'est terminé. À terre, on se dit toujours que oui, il y aura une ambulance qui peut nous récupérer, nous emmener à l'hôpital. Enfin, c'est pas à 100% la mort assurée. En mer, l'erreur quand même est difficilement pardonnable. Et je pense que tout ça nous permet de nous rendre compte à quel point ce qui est le plus important, c'est d'être vivant. La nature, de toute façon, aura le dernier mot. Donc à quel point c'est à nous de nous adapter, et à quel point, parfois, oui, il faut savoir faire des compromis. Donc j'étais pas quelqu'un de compromis quand j'étais une jeune femme. Je le suis devenue parce que la mer me l'a appris.
Et au sujet des risques qui peuvent arriver, on voulait juste rappeler une petite anecdote qu'on doit souvent vous rappeler. Il me semble que c'est en 2011, lorsque vous traversez le Pacifique, que votre radio cesse de fonctionner. Mm-hmm. Et il me semble que c'est pendant 2 mois que vous n'avez plus de contact avec la Terre ferme. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête au moment où vous comprenez réellement qu'elle ne fonctionne pas ?
Alors c'est assez étrange, d'abord parce que la situation en plus était assez particulière. 2011, on est en mars. Et il vient d'y avoir l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc mon sponsor m'appelle sur mon téléphone satellite pour me prévenir qu'un tsunami était attendu sur les côtes péruviennes, d'où je venais de partir une semaine auparavant. Il me dit « éloigne-toi ». Alors, de toute façon, j'avais l'intention de m'éloigner, puisque le but du jeu, c'était de rejoindre la Polynésie française. Mais là, il me dit « vraiment, il faut vraiment que tu t'éloignes. Plus loin tu seras des côtes, et moins de risques que tu auras, puisque un tsunami au large ne se ressent pas du tout. » Et alors qu'on discutait de ça, la conversation est coupée. Ça arrive souvent avec les Iridium, parce qu'effectivement ce sont des téléphones satellites, donc il suffit que le relais se passe mal entre un satellite et l'autre. On m'avait dit en plus que sur le Pacifique il y avait des ondes parfois un petit peu floues, donc je me dis bon, c'est pas grave, je réessayerai un peu plus tard. Et en réessayant plus tard, et plus tard, et plus tard, et plus tard, je suis arrivée à ce constat qu'une semaine plus tard, mon téléphone ne fonctionnait vraiment plus. Et donc, j'avais eu le temps de m'y habituer, puisque j'y ai cru chaque jour. Donc c'est chaque jour où ça ne marchait pas, déjà j'étais partie un peu dans cet isolement. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas, et qu'a priori c'était vraiment mort pour le reste de la traversée, ça a été un peu étrange, parce que comme j'étais seule... J'ai commencé à psychoter un peu, j'étais fatiguée. Première semaine, on a toujours un petit coup de barre parce qu'il faut qu'on s'adapte, le temps de s'amariner. Fukushima, je me dis, un accident nucléaire, est-ce que ça veut dire que les satellites sont tombés ? Et que c'est parce qu'ils sont tombés que ma connexion s'est arrêtée ? Est-ce que ça a créé un tel tsunami que la Polynésie française n'existe plus ? Donc aussi bien, moi je suis en train de faire route sur un endroit qui n'existe plus. Et puis on se reprend à penser aux navigateurs qui ont parcouru la planète à une époque, enfin, où partaient sur les mers avec cette croyance que la Terre était plate, au tout début. Et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que c'est dingue, ils partaient un peu comme je suis là maintenant, sans communication, sans savoir. Et donc j'ai trouvé ça assez enrichissant en même temps. Je me disais, mais c'est dingue, quoi. Je suis au milieu de tout ça, moi je suis vivante, mais je ne sais pas ce qu'il en est du reste du monde finalement. Et puis bon, il y a un moment où on se dit que de toute façon, ça sert à rien de psychoter parce qu'il n'y a pas le choix. Moi, je continuais, quoi qu'il en soit. J'avais bien l'intention de trouver une terre quelque part. Et puis les choses se posent.
Dans une société où une femme qui a des enfants est avant tout perçue comme une mère, vous qui êtes maman, vous avez eu le courage de partir en solitaire et de vivre votre passion. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a reproché ?
Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et curieusement, les femmes me l'ont reproché, pas les hommes. La plupart du temps, quand on me l'a reproché, c'était des femmes lors de rencontres, des femmes d'un certain âge souvent. Et je me suis d'ailleurs demandé, est-ce que c'est parce que leur éducation leur aurait interdit de faire ce que j'ai fait? Donc nous, on a la chance de vivre une époque où on est quand même relativement libre. On vit dans un pays où on est libre de faire nos choix, de partir dans des choses qui nous intéressent personnellement sans avoir besoin de demander la permission. Et est-ce que ces femmes, c'était pas par peut-être aigreur, par amertume, qu'elle me posait la question de comment j'avais osé, comment j'avais pu.
Parce que quelque part,
elle n'aurait même pas pu rêver le faire. Ça n'existait pas dans leur société. Moi, le regard des autres, je m'en fous, très honnêtement. Je suis partie aussi, j'avais pas 20 ans, j'avais déjà eu une vie. Je ne sais pas si je n'aurais pas été abîmée, justement. Quand on est jeune, on est plus fragile, c'est normal, on est moins équipé. Et moi, le regard des autres m'indiffère complètement.
Oui, donc en fait, si vous étiez un homme, vous auriez sûrement eu moins de remarques par rapport à ça.
Oui, probablement, bien sûr. De toute façon, il suffit de regarder sur un départ de Vendée Globe, par exemple, sur les pontons. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes. Curieusement, les femmes qui sont mamans, on leur demande toutes, mais toutes, sans exception. Mais alors, comment vous gérez vos enfants? Et il n'y a pas un homme, alors qu'ils sont papas, et il y a de jeunes papas parfois, personne ne leur demande comment vous gérez vos enfants. Donc oui, non, on est encore dans cette société où ça paraît pas tout à fait normal qu'une maman puisse avoir une vie en dehors de sa famille.
On aimerait aborder un peu le sujet du réchauffement climatique.
Mmh.
Quels ont été les éléments déclencheurs de votre engagement pour la protection de l'environnement ?
Moi, je suis un petit peu... Alors, c'est assez compliqué ce qui se passe dans ma tête actuellement, parce que on nous parle de... J'entends parler de tas de choses. J'ai participé aussi à des tas d'événements sur l'environnement. Et plus ça va, plus je me dis, mais on se trompe complètement de message. Quand j'entends « sauvons la planète » ou « aujourd'hui, j'y adhère plus », c'est « sauvons l'humain ». On voit bien, enfin, tous les phénomènes qui se passent actuellement, que ce soit les tsunamis, que ce soit les tempêtes, que ce soit les éruptions volcaniques, que ce soit les tremblements de terre, font souffrir l'humain en premier. L'érosion, aujourd'hui, elle fait déplacer des populations. La montée des eaux, elle fait déplacer. Donc il y a des phénomènes migratoires phénoménaux qui sont en cours. La planète, elle se portera très bien sans nous. Nous, par contre, est-ce qu'on va réussir à s'adapter à ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Et c'est là où ça me dérange, c'est que en se trompant de message, du coup, les gens se disent « bon, bon, ouais, la planète, la planète ». Mais peut-être que si on commençait à parler de l'humanité et de ce que nous, on va devoir vivre dans les années à venir, peut-être que là, on prendrait les choses un petit peu plus au sérieux. Et peut-être que nos gouvernements aussi prendraient les choses un petit peu plus au sérieux. Parce que ça sert à quoi de s'agiter aujourd'hui dans les différents gouvernements quand il n'y aura peut-être pas de demain, parce que la nature finira par nous régler notre compte. J'essaye, moi, de passer ce message-là. Faites attention à notre propre espèce. C'est nous qui sommes en danger, vraiment. Et effectivement, de préserver notre espèce passera par la préservation, évidemment, de la planète sur laquelle on vit. Le danger, pour moi, en tout cas, il est plus pour nous, actuellement.
Et du coup, puisqu'on évoque l'avenir et le futur, c'est quoi vos projets pour après ?
Alors là, bah, j'en ai toujours plein, c'est ça qui est chouette. Plein de différents, là on part justement sur, on parlait des bouleversements climatiques. Comme ça m'a vraiment interrogé le fait qu'on ait l'impression d'avoir des concepts, c'est très à la mode le concept, alors le bouleversement climatique ou les changements ou le réchauffement, voilà, ça veut tout dire, ça veut rien dire, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Et là-dedans, on oublie de parler des humains la plupart du temps. Et en voyageant en Arctique, moi, ça a été vraiment flagrant, puisque, entre autres, depuis 2014, je fréquente le petit village de Tuktoyaktuk, qui est situé dans l'Arctique canadien. Et Tuktoyaktuk est en train de disparaître, puisque l'Arctique, le permafrost, qui est ce sol gelé sur lequel repose la toundra, est en train de fondre. L'érosion est galopante. Et petit à petit, les villages qui étaient des villages semi-nomades, mais des villages de pêcheurs pour la plupart, pêcheurs-chasseurs, sont à proximité des côtes, sont vraiment sur le littoral. Tuktoyaktuk, en 6 ans, a perdu 6 ou 8 maisons déjà. Ces gens-là sont relogés, mais pas dans le village, puisqu'on sait que le village va être amené à mourir. Ils sont amenés à partir vraiment en exil, sur 1000 km, 2000 km de chez eux. Donc comme les familles vont être explosées, il va y avoir de véritables drames humains, il y aura des histoires qui vont être poignantes. Et moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui, on en parle peu. Donc du coup, j'avais dans l'idée d'aller tourner là-haut. J'ai présenté le projet à un producteur qui m'a dit « mais on va aller au-delà de ça, on va essayer d'identifier plusieurs pays qui connaissent aujourd'hui la montée des eaux, pour lesquels l'exode est déjà en place, et c'est pas non plus, c'est pas un truc de demain, ou en 2030, ou en 2050, c'est là, c'est actuellement, c'est en train de se passer, et on va raconter des histoires, et on va raconter l'histoire des gens. Et moi, ce que je veux, c'est être juste le guide, l'espèce de fil d'Ariane dans ces documentaires, mais laisser la parole à ceux qui vivent sur le terrain et qui ont cette connaissance parce qu'ils y sont au quotidien. Pas comme des gens qui ont été propulsés, des scientifiques qui vont faire des études avec des stats. C'est important qu'il y en ait aussi. Mais donnons la parole aux gens qui vivent au quotidien ces problématiques.
Pour terminer, on voudrait vous poser une question que l'on pose à toutes nos invitées. Quel lieu conseillerez-vous à quelqu'un qui pose pour la première fois le pied en Bretagne ?
Le lieu que je conseillerais, définitivement, le Cap Sizun, parce que le littoral y est fabuleux. Toutes les couleurs qu'on peut trouver là-bas, c'est vraiment un lieu magique. Donc, définitivement, le Cap Sizun, oui.
Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de suivre la suite de vos aventures et merci encore d'avoir participé à notre podcast.
Merci beaucoup. Merci. Kedavo.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Bretonne Podcast.